Merci Élodie Forêt et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Le Secret des Sources, notre plongée hebdomadaire dans les coulisses de l'information.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Benoît Bouscarel.
Quelle relation entre le journaliste et le scientifique? Comment gérer les tensions, la défiance parfois qui existe? Ce n'est pas une légende urbaine entre ceux dans leur laboratoire qui ont peur de voir leurs pensées, leurs travaux raccourcis, simplifiés, dénaturés peut-être, et ceux dans leur rédaction qui n'ont pas du tout envie de dépendre entièrement des chercheurs ni de tous ceux qui produisent le savoir et les idées. Ces tensions sont-elles insurmontables? Faut-il chercher à les réduire? Comment vivre avec? Et dans cette relation particulière entre le journaliste et le scientifique, comment se positionne le journaliste scientifique? Doit-il être un médiateur, un vulgarisateur, un communicant, simplement un passeur? En ces temps de bouleversements climatiques, d'inquiétudes parfois irrationnelles face à la science, dont on a l'impression qu'elle peut tout à la fois fracasser la planète ou la sauver, et à l'approche de la COP21 qui suscite déjà un vrai questionnement du grand public, comment faire pour informer sereinement, honnêtement sur la science? Et on pourrait se poser la question peut-être comme ça, comment rapprocher les rigueurs, la rigueur journalistique et la rigueur scientifique? Ce sera notre sujet du jour dans Le Secret des Sources, nous en parlons avec nos invités dans un instant, Aline Richard, journaliste indépendante, Cyril Van Lerberg du Figaro et Sylvestre Huet de Libération. Dans une deuxième partie de l'émission, nous irons à Séoul, en Corée du Sud. Séoul où, depuis deux jours, les médias tournent en boucle sur la rencontre qui a permis à une centaine de familles du Sud et du Nord, coupées depuis plus de 60 ans par la guerre, de se retrouver de manière très temporaire, très artificielle et sous l'œil des caméras. C'est Frédéric Ojardias qui nous attend à Séoul. Bienvenue dans Le Secret des Sources.
Sous la carte, il y a ici six petits contacts. Et sous ces contacts, il y a, vous voyez, un petit microprocesseur avec ses mémoires. Et là, on peut utiliser cette carte, à mon avis, de trois façons avec sa mémoire.
Et oui, Grishka, ce mystère formidable que nous vous invitons à découvrir ce soir, c'est celui du cerveau humain, la chose la plus complexe de tout l'univers.
Si je place mon satellite sur le plan de l'équateur, à 36 000 km d'altitude, il sera comme scotché au-dessus de nos têtes. Il va tourner à la même vitesse que la Terre.
Dans une ère glaciaire, il y a des hauts et des bas. Quand il fait très froid, c'est ce que l'on appelle une période glaciaire. La dernière s'est déroulée entre moins 115 000 ans et moins 10 000 ans. Depuis, il fait beaucoup plus doux. Nous sommes dans une période interglaciaire.
Le secret des sources.
Vous avez probablement reconnu dans un montage signé de notre réalisateur Vincent Abouchard les voix de Michel Chevalet, de Jérôme Bonaldi, de Jamy Gourmaud et des frères Bogdanov dans leur période Temps X. Bonjour Aline Richard.
Bonjour.
On va entamer un premier tour de table avec vous. Vous êtes journaliste indépendante, engagée en ce moment dans une nouvelle aventure dont on va parler dans cette émission, The Conversation,
qui accueille exclusivement les contributions des chercheurs et des universitaires.
Mais avec une rigueur journalistique, on en parlera. Vous êtes auteur de livres et de documentaires, chargé de cours à l'Institut pratique du journalisme, l'IPJ à Paris, ancienne directrice de la rédaction du magazine La Recherche. Vous vous considérez comment, Aline Richard, comme journaliste spécialisée en sciences, comme journaliste scientifique?
Comme journaliste tout court, ouais. depuis assez longtemps. Et j'ai pas fait que de la science, j'ai fait de l'économie avant, j'ai pigé pour différents sujets, et aujourd'hui, depuis une petite quinzaine d'années, je m'occupe de science, de médecine, d'environnement.
Donc vous êtes avant tout journaliste. Également sur notre plateau aujourd'hui, Cyril Van Lerberg, bonjour.
Bonjour.
Responsable des pages science et médecine au Figaro et président de l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Pourquoi d'ailleurs cette précision de la presse d'information? Il y a des journalistes scientifiques qui n'en sont pas, Cyril Van Lerberg?
Alors en fait la précision elle est ancienne, elle date de la création de l'association qui a cette année 60 ans. Si on précise presse d'information, c'est pour bien dire qu'on veut des journalistes qui travaillent dans des médias indépendants et pas des gens qui font de la communication Voilà, il y a une vraie nuance entre information et communication et on tient à la maintenir dans l'association.
C'est une façon aussi de se différencier de la presse spécialisée ou même de la presse des instituts de recherche, comme le CNRS par exemple, qui a des publications aujourd'hui.
Oui, beaucoup de grands instituts ont des journaux, des sites qui sont en ligne. On tient à faire une distinction entre une information qui est réalisée par des journalistes et une information qui est celle qui est en fait de la communication institutionnelle.
C'est pas la même chose, c'est pas le même métier.
C'est pas le même métier.
Et vous, votre métier, donc, Cyril Van Lerberg, c'est journaliste.
Oui.
À vos côtés, Sylvestre Huet, d'ailleurs ancien président de cette association également. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste au quotidien Libération, spécialiste en sciences, auteur tout récemment d'un livre, Les Dessous de la cacophonie climatique, aux éditions La Ville Brûle. Vous aussi, donc, journaliste, vous l'avez dit tout à l'heure en préparant cette émission, vous me disiez, je suis journaliste spécialiste en sciences.
Oui, c'est aussi très important pour vous. Depuis 1983, mais en fait, je ne m'occupe que de l'information scientifique depuis 1986, donc j'ai un peu de bouteille.
Ouais. On dit d'abord journaliste, donc avant d'être journaliste scientifique. Mais pourquoi c'est aussi important pour tous les trois et pour finalement toute votre catégorie?
Il y a une petite ambiguïté dans la formulation.
Allez-y, développez.
Souvent, quand j'ai le temps, je développe journaliste spécialisé en sciences. Je ne suis pas un scientifique. On va dire un journaliste économiste, c'est pas quelqu'un qui fait de l'économie, c'est un journaliste qui traite de l'économie. Un journaliste scientifique, c'est un journaliste qui traite de la science, c'est-à-dire à la fois de la production des connaissances, de ce qui se passe dans les laboratoires, de la production d'articles scientifiques, mais aussi des relations entre la science, la technologie et la société. Donc on peut être amené à écrire des articles sur des conséquences de l'utilisation de la science et de la technologie dans les sociétés. Et ça, on voit bien que c'est un travail de journaliste.
On ne demande pas à un journaliste politique s'il est politique.
Non, ou s'il se présente aux élections, à ce moment-là, en général, c'est plus un journaliste.
Mais c'est assez particulier parce que, en effet, journaliste scientifique, moi je sais que quand j'ai commencé à traiter de ce domaine, comme dit Sylvestre, on couvre des domaines, quand on est journaliste, ça m'a un petit peu surprise parce que quand je faisais des articles sur l'énergie et les matières premières dans mes précédentes fonctions en presse économique, on disait pas, tu es journaliste économique. Et je crois qu'il y a quand même
une confusion.
Mais il y a une spécificité. C'est pas pour être l'avocat du diable, mais c'est vrai que c'est assez particulier de traiter de science. Et médecine, c'est un petit peu différent. Mais disons, limitons-nous à la science. C'est un peu particulier dans le sens que il faut effectivement s'immerger dans un milieu, dans une culture qui est quand même une culture assez particulière. Je pense que c'est assez prégnant. Je pense qu'aussi ça relève de l'histoire. Ça relève aussi des réactions des rédacteurs en chef qui considèrent bien souvent que c'est quand même un domaine un peu spécial auquel on comprend rien
vous êtes ceux au sein de la rédaction qui comprenaient les grands enjeux scientifiques.
Voilà, donc alors peut-être que ça peut monter à la tête de certains, mais en tout cas, bon, voilà pour expliquer journaliste scientifique.
Il y a aussi une opposition, qu'on voit avec le reste la majorité des journalistes qui sont quand même plutôt des littéraires. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est on me dit souvent, ouais, toi tu comprends les sciences, explique-nous. Voilà, on est quand même dans un pays aussi où on n'a jamais de honte à expliquer qu'on n'y comprend rien en sciences. En revanche, en littérature, on peut pas dire qu'on n'a pas lu Victor Hugo. Enfin, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et cette distinction-là, elle est aussi pour dire, voilà, vous êtes scientifique, vous êtes un peu à part. On l'a entendu d'ailleurs dans le montage de la bande-son, là, on avait surtout de la vulgarisation. Ouais. Donc souvent le journaliste scientifique, on le limite à cet exercice de vulgarisation, d'explication, pour aller faire comprendre des choses qui sont complexes.
On va développer là-dessus, sur la terminologie. Est-ce qu'on fait de la vulgarisation? Est-ce qu'on fait de la communication? Bon, apparemment, de ce que vous me disiez tout à l'heure, non, surtout pas. Mais j'aimerais qu'on parle d'abord de ces relations entre les journalistes et les scientifiques, ceux qui sont vraiment scientifiques. Est-ce qu'elles sont aussi houleuses que ce que j'ai bien voulu dire tout à l'heure en introduction de cette émission? Je sais pas qui veut répondre, Sylvestre Huet.
Disons que ça dépend énormément des journalistes en cause. Ça dépend de ce qu'ils produisent dans les journaux où ils travaillent, la radio ou la télévision. C'est évident que un journaliste qui a été pris la main dans le sac par des chercheurs a déformé des propos, à ne pas comprendre ce qu'on lui avait dit et donc à se tromper dans la présentation d'un concept scientifique ou d'un résultat de recherche. Là, évidemment, le chercheur se sent trahi et la fois d'après, il n'est pas très sympa. D'un autre côté, bon, moi, dans ma vie de journaliste, j'ai rencontré des centaines de chercheurs. J'ai passé des centaines d'heures dans des laboratoires ou carrément dans des missions, faire du reportage sur des navires océanographiques ou aller être dans un observatoire avec avec des astrophysiciens. Et donc, évidemment, l'expérience que j'ai, c'est plutôt le fait qu'il est possible d'avoir un travail en commun avec les scientifiques dès lors que le journaliste se donne comme objectif principal de présenter la science telle qu'elle est.
Oui, mais ça, c'est vrai dans tous les domaines, Sylvestre Struet.
C'est vrai.
Il y a aussi peut-être un problème du regard du scientifique sur le journaliste, qu'il va reprocher de trop simplifier, d'aller trop vite, de rien comprendre éventuellement, et d'être un vulgarisateur, ce qui, dans la bouche d'un scientifique, n'est pas forcément très valorisant.
Ce qu'il y a, c'est peut-être que Aline Richard. Les journalistes, comme dit Sylvestre très justement, ça dépend de qui on parle. C'est facile de critiquer. J'essaye de pas le faire, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent pas bien. Ça peut expliquer un certain nombre de dérives. Bon, ça, c'est du côté des confrères et des consoeurs. Et puis, du côté des chercheurs, il faut quand même aussi le dire. Il y a des gens qui sont pas particulièrement, d'une part, sympathiques, d'autre part, ouverts à l'extérieur.
Vous n'allez pas vous faire des amis.
Ouverts à une nouvelle expérience. Bon, c'est pas très grave. Il faut être ouvert. Ouais. Il faut avoir envie de dire quelque chose au monde. Si vous n'avez pas envie de dire quelque chose au monde, c'est un peu difficile d'interagir avec un journaliste.
Mais c'est quand même le boulot des chercheurs et des scientifiques que, justement, d'aller vers le public et de rendre compte de leurs travaux. Non, je vois des hochements de tête, là, hein, Cyril Vandenberg.
Alors, ça commence à entrer dans le discours des responsables d'organismes, mais c'est récent, hein. Quand un chercheur passe à la télé, il va être plus souvent épinglé par ses collègues, soit par jalousie, soit par critique, parce que justement, il a utilisé des termes simplificateurs.
Envié et détesté, bien souvent.
Ouais. Il y a le bon client, celui qui court les plateaux de télévision, de radio, qui est sans cesse dans les médias. Et puis, il y a les autres, ceux qui ne veulent pas parler. Ça existe, ça, vraiment, Sylvestre Struet?
C'est vrai, ça existe. Et le vrai problème du bon client, c'est que, comme ça veut dire en réalité qu'il sait se plier au formatage des produits télévisuels, radio ou presse écrite, eh bien la tendance malheureuse des directions de journaux, c'est d'y recourir quel que soit le sujet. Alors que l'un des rôles principaux des journalistes scientifiques, c'est justement d'identifier à l'intérieur de la communauté scientifique ou d'une discipline bien déterminée, quels sont les chercheurs qui sont capables de porter non seulement les résultats de leurs propres travaux, mais aussi les résultats des travaux des autres chercheurs, d'avoir un regard critique, de synthèse critique sur un état des connaissances, et donc d'aider le journaliste à produire une information véritablement documentée sur l'état d'une recherche, d'une question scientifique, alors que le journaliste n'a pas le temps de rencontrer l'ensemble des acteurs d'une recherche. C'est impossible. En face de, en France, quelques centaines de journalistes, peut-être 200, 300 journalistes, au grand maximum, qui font ce travail, il y a des dizaines de milliers de professionnels de la recherche et de la technologie. Donc, la plupart d'entre eux ne rencontreront pas un seul journaliste scientifique de leur vie. Donc, le choix que nous opérons, il est vraiment très important. Et souvent, les choix que voudraient nous faire opérer les rédactions en chef ou les directeurs de chaînes de télé ne sont pas les bons.
Ouais, l'enjeu là pour un journaliste, c'est ce que vous nous dites, hein, et d'ailleurs tous les trois, vous êtes assez unanimes là-dessus, c'est de multiplier les points de vue, d'aller vérifier les infos, de mettre en perspective et puis finalement de croiser les sources, d'être un journaliste.
Mais là, c'est très important ce qui vient d'être dit par Sylvestre, parce que, alors, d'un côté, effectivement, il y a des rédacteurs chefs qui vous disent qui c'est celui-là. Là, tu peux pas me trouver du Yves Coppens à la place, vous voyez ce que je veux dire, pour avoir
le
un
bon
peu
client,
de, le bon client. Ouais, bon, ouais. Ça, c'est un problème. Il y a aussi le chercheur ou la chercheuse que vous allez voir qui, parfois, parce que la science s'est hyper spécialisée, va vous dire, ben non, moi je peux pas vous parler de ça, vous comprenez, parce que moi je m'occupe de ça et pas d'autre chose. Mais si vous voulez, c'est difficile, parce que si vous vous laissez faire, alors vous allez avoir quelque chose de très étroit, on va pas avoir de contexte, donc c'est très compliqué. Ça n'en a pas l'air, mais c'est une vraie difficulté.
Il faut que chacun fasse un peu. Tout à l'heure vous disiez, Aline Richard, on est tous responsables, chacun de notre côté. Vous êtes d'accord avec ça, Cyril Vandenberg?
Oui, puis, et comme dit Sylvain, qu'il faut aussi se méfier du bon client, le scientifique qu'on voit partout sur n'importe quel sujet.
C'est un appauvrissement aussi, non, de le voir tout le temps
partout. Oui, quand on voit un spécialiste des trous noirs parler de la surface de Mars, eh ben on n'y est pas. Il a beau être astrophysicien, c'est un domaine qu'il ne connaît pas, enfin pas plus qu'un autre d'ailleurs. Mais...
Dans ce contexte, alors le journaliste scientifique est un médiateur, un vulgarisateur, un passeur de science, un communicant, Sylvestre Huet?
Il y a tout ça, mais il y a aussi quelque chose d'encore plus important. On est des observateurs.
Vous prenez à votre compte tout ça. Vous êtes médiateur,
comme
vulgarisateur
journaliste,
aussi.
Ça dépend. Dans un article, il y a, sur la science, il y a de tout, en fait. Par exemple, il y a des petits passages, parfois, de vulgarisation obligée, parce qu'il faut qu'on explique tout petit peu la science, même si c'est jamais la science véritable. On explique avec des métaphores, avec des analogies, avec des raccourcis. Il y a la vraie science qui se fait avec des maths, notamment, elle a sa place dans les journaux. Parfois, on est obligé, dans un article, de faire un peu de physique avec les mains, on va dire. Mais je dirais que le principal rôle du journaliste, c'est de faire un travail d'observation du monde de la recherche, de ses résultats, de son fonctionnement, des raisons pour lesquelles il produit plutôt ceci que plutôt que cela. Pourquoi on décide de, par exemple, continuer de l'exploration spatiale, robotique ou habitée. Voilà, le journaliste, il pose aussi des questions au système scientifique qu'il regarde fonctionner. Il n'est pas passivement un simple médiateur de messages qui proviennent du milieu scientifique lui-même.
C'est des choix politiques, finalement, politiques dans le sens noble, qu'on évoquait tout à l'heure avec Aline Richard.
Sur le système, on n'est pas journaliste.
Est-ce qu'on voit une ligne, d'ailleurs, tiens, de différence? On voit bien que la ligne éditoriale du Figaro et de Libération n'est pas tout à fait la même. Est-ce que ça se retrouve aussi en science? Et comment? C'est une question pour Cyril Vandenberg.
Ça peut se retrouver en science, mais je dirais que la ligne, elle n'est pas forcément politique. Elle peut être personnelle, elle peut être la vision du journaliste lui-même. Sylvestre parle du vol spatiaux. Certains de mes collègues ont un avis sur les vols habités. Est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce que c'est intéressant d'avoir un homme sur l'espace, d'avoir envoyé quelqu'un sur Mars, par exemple? Et là, c'est des avis qui sont quelque part personnels. Après, on a, selon les médias, des rapports au temps qui sont très différents et qui sont, pour mon avis, la première contrainte du métier et qui donnent, à mon avis, aussi les frictions les plus importantes avec les scientifiques. Un chercheur, quand il rédige un programme de recherche, c'est sur plusieurs années. Quand il trouve un résultat, c'est au minimum au bout de 6 mois de travaux. Et nous, on arrive, on a une journée, voire au maximum deux.
Pour comprendre. Pour analyser,
pour chercher. Pour mettre en contexte, pour dire qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui l'est pas. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est sérieux? Et donc, quand on a un dialogue avec le chercheur, on a deux personnes qui travaillent avec des contraintes tellement éloignées qu'il y a forcément un clash culturel entre les deux. C'est souvent difficile quand les scientifiques sont pas habitués à travailler avec des journalistes.
Les temps ne sont pas les mêmes, c'est ce que nous disait tout à l'heure aussi Aline Richard.
Le temps de la recherche n'est pas le temps du journaliste et forcément ça peut coincer.
On parle aujourd'hui dans le secret des sources des relations entre journalistes et scientifiques. You know, sometimes you get it right. Domino, domino. Sometimes you get it wrong. Set them up like dominoes, baby. Domino, domino. Watch them all fall. You tried so hard, your head is spinning. Think you better go and change your ways. So sure, so far, so messed up in it. Just take it as it come, let it come your way. Turn a dime, do a dozen, but you gotta start it off somewhere. You take one half step, halfway, you may feel like you're nowhere. You're standing in a long line, can't see the path to glory. But if one falls over, well now that's a different story. Domino, domino, one falls over, then the whole thing go domino, domino. Let it turn the whole world around. Head up now, eyes straight, or you might miss it. You gotta see the sights, you gotta hear the sounds. Said you're gonna find you a missus. Said you're gonna find Mr. Right. Said you want a big house, a big car.
to the side and that's a different story. Domino, domino, one more over, then the whole thing go domino, domino. Light 'em up and watch 'em roll. I said one more over, then the whole thing go domino, domino. Light 'em up and watch 'em roll.
C'est Galactic, groupe américain avec Domino, un extrait de leur nouvel album Into the Deep.
Le secret des sources. Benoît Bouscarel.
Les journalistes scientifiques, comment ça marche? Pour reprendre une formule un peu à la Michel Chevalet, le secret des sources, on parle aujourd'hui de ces relations parfois compliquées, mais toujours importantes entre les journalistes et les scientifiques. On a un peu évoqué, mais on y reviendra un peu plus en longueur, des thématiques environnementales. On voit, c'est important. Et depuis longtemps, Isabelle Vérin-Masson, bonjour.
Bonjour.
C'est pas nouveau.
Non, c'est pas nouveau. Et là, nous venons de sortir un numéro du Temps des médias qui s'appelle « De la nature à l'écologie ». Vous savez, c'est la revue que je co-dirige et qui porte sur la question des relations des médias avec dans l'histoire. Et là, on a traité de la question des scientifiques. Donc, c'est intéressant que vous traitiez ce sujet-là. Et ce que montre la revue, c'est à quel point ces questions scientifiques concernent les médias très tôt, plus tôt. Les scientifiques voient dans les médias un moyen important de faire un certain nombre de, comment dirais-je, d'actions dans leur vie scientifique, à la fois parce qu'ils vont évidemment faire connaître leurs travaux, parce qu'ils vont aussi multiplier les expériences. C'est intéressant de voir que très vite, on s'aperçoit qu'en demandant à droite et à gauche aux gens, ou aux scientifiques, aux médecins, ou aux biologistes, aux gens qui s'intéressent aux questions scientifiques, de multiplier de diffuser leurs expériences, c'est un moyen d'accroître la connaissance. Et puis, bien sûr, la mobilisation. Donc, c'est ces trois fonctions, très tôt, dès qu'il existe des médias, en réalité, les scientifiques y voient l'avantage. Donc, dès le XVIIIe siècle, alors, sur des questions qu'on parle de nature, on parle pas encore d'écologie, mais on parle beaucoup du climat, ça c'est intéressant. La théorie des climats au XVIIIe siècle, c'est un débat scientifique de très haut niveau. On réfléchit à l'influence et Montesquieu est au cœur. Donc, vous voyez, la question des scientifiques, la séparation entre sciences exactes et sciences sociales n'existe pas encore totalement comme maintenant. Et puis après, la question de l'hygiène qui va apparaître alors plus tard avec le problème des épidémies. On va se servir là encore une fois des médias, de la presse écrite, des journaux spécialisés, des journaux pour parler de ces questions-là et de multiplier les expériences. Et puis la ville, l'insalubrité industrielle. Et là, c'est intéressant de voir que sur les questions qui touchent à l'industrie, là, il y a un petit problème avec les médias parce que les médias ne sont plus totalement libres lorsqu'il s'agit de parler d'économie. On voit bien que l'influence, enfin le danger de signifier pour les économies, pour la révolution industrielle, de parler des dangers fait qu'on va faire un peu taire un certain nombre de scientifiques. Et puis, aujourd'hui, évidemment, on le voit avec la télévision, les scientifiques s'emparent des médias avec des grands noms que nous connaissons, Taziev, Cousteau, Hubert Reeves. Ça, ce sont les premiers, ceux qui rentrent dans les médias pour faire parler de la science. Et aujourd'hui, alors, toutes les émissions qui véritablement donnent la parole aux scientifiques avec la question des controverses, la question tout simplement du progrès scientifique aussi, dans lequel les scientifiques, les journalistes et les journalistes avec les scientifiques vont s'emparer des médias.
Vous avez évoqué cette différence, Isabelle Vérin-Masson, entre les sciences dures et les sciences humaines. Dans cette relation entre le journaliste et le scientifique, quelles sont les différentes problématiques?
En fait, quand on parle des sciences dures ou des sciences moins dures, on devrait parler du rôle des intellectuels, c'est-à-dire des gens qui vont faire vivre le débat sur des questions d'idées, et puis de l'autre côté, des gens qui vont faire vivre les débats scientifiques. En réalité, on s'aperçoit que les deux sont souvent liés et que les scientifiques vont porter un message de type moral, idéologique, politique. Et c'est la question de l'écologie. Hein, l'écologie va passer de la nature à l'écologie, de l'écologie à l'écologie politique. Et puis de l'autre côté, les philosophes, les historiens vont porter la question aussi du rôle du progrès, du rôle des sciences, d'une manière très forte, même si l'invention de l'intellectuel, au départ, vient des questions politiques et l'affaire Dreyfus, comme on le sait. Donc, mais à partir du moment où les intellectuels, les gens qui pensent, qui écrivent, qui vivent de leur plume, pensent que les médias peuvent leur servir à quelque chose, dans leur combat philosophique, historique, sociologique, ils vont aussi utiliser cette plume et cet accès aux médias pour porter la question du progrès scientifique et des questions scientifiques. Donc, les deux sont très liés.
Vous restez autour de cette table, Isabelle Verramassan. Je vais me retourner vers nos invités. La COP21 arrive. C'est dans un mois, ça suscite évidemment beaucoup de questionnements de la part du grand public et de votre part à vous, les journalistes spécialistes en sciences, beaucoup évidemment d'interventions. Comment est-ce que ça se passe de manière générale? On parle beaucoup des climato-sceptiques. Sylvestre Huet, je crois que sur votre blog, sur la plateforme de Libération, là, ces dernières heures, ces derniers jours, il y a eu un clash. Vous avez eu un clash avec un scientifique?
Oui, parce que la semaine dernière, Libération, la rédaction chef m'avait demandé de commenter quelques déclarations de climato-sceptiques qu'ils avaient repérées. Et il y avait par exemple professeur de chimie organique à l'Université catholique de Louvain, István Markó, qui déclarait que avec 0,04% de CO2 dans l'atmosphère, il était physiquement impossible que cette infime partie puisse jouer un rôle sur l'évolution du climat. Et donc je me suis un petit peu moqué de lui en lui disant « Cher István, il y a un terreau de climato demain, donc relis ton manuel, parce que quand même, ça, c'est première année d'université comme niveau. Ouais. » Et donc, du coup, il s'est fâché, il m'a envoyé une lettre et je me suis remoqué de lui sur le blog. Sur le fond, le travail du journaliste scientifique devant...
Vous étiez plus scientifique que lui, alors, là, sur ce coup-là.
Non, pas vraiment. Non, parce que la connaissance que je mets en opposition à ça, c'est pas une connaissance personnelle. C'est que j'ai interagi avec le milieu scientifique. J'ai observé qui produit quoi en sciences du climat. J'observe que le professeur Markó ne produit strictement rien. Il a zéro publication en sciences du climat à son CV. Il en a plein d'autres en chimie organique, travaille sur les médicaments, etc. Ok, mais prenons un exemple plus concret pour les gens. Si vous avez une maladie cardiaque, vous allez voir un spécialiste du cœur, un cardiologue. Vous n'allez pas voir un dentiste ou un gastro-entérologue. Et ben pour le climat, le journaliste scientifique sait qu'il a un devoir professionnel, c'est d'aller voir les spécialistes en climatologie. Et si quelqu'un qui est certes scientifique, professeur d'université, mais qui a absolument rien dans son CV sur la climatologie, se permet de contester un résultat scientifique qui a été publié dans des revues à comité de lecture et jamais contesté depuis, au nom de moi, je pense que tout seul dans mon coin. Alors moi, le devoir professionnel du journaliste scientifique, c'est de dire à l'opinion publique, à ses lecteurs ou à ses auditeurs, attention,
il y a Esbrouf.
Cet homme n'est pas un interlocuteur valable pour vous expliquer ce que les climatologues ont découvert sur le climat.
Est-ce que vous avez la sensation de parler à des gens peut-être plus instruits en sciences qu'à l'époque où vous avez commencé le métier ?
Bien sûr qu'il y a une certaine diffusion la culture scientifique et une légère augmentation du nombre de gens qui font des études en sciences. Mais il faut surtout pas avoir une illusion de ce point de vue. Les connaissances fondamentales de la science contemporaine, y compris des concepts qui datent d'il y a 150 ans, comme l'évolution des espèces, prouvent les sociologues, quand ils font des enquêtes sérieuses, qualitatives sur le sujet, ignorées de, malheureusement, la grande majorité encore de la population française.
Aline Richard.
Oui, c'est la triste réalité. Vous êtes obligé, quand vous travaillez pour un média généraliste, et non pas trop spécialisé ou trop élitiste, vous êtes obligé à chaque fois de vous poser la question des connaissances de base. Et ça, on peut pas y échapper. Moi, je dirais qu'il y a non seulement ça, puis il y a un autre truc qui est quand même très ennuyeux en France, c'est que cet illettrisme en matière de culture scientifique et technique, on le retrouve également au sein des élites, chez les décideurs, notamment les décideurs politiques. Et ça, c'est vraiment un problème.
C'est là que vous intervenez, les journalistes scientifiques. Aline Richard, on vous a invité parce que vous êtes à l'origine de l'arrivée en France d'un site internet qui s'appelle The Conversation, qui est très intéressant, qui est pile vraiment au milieu de notre sujet aujourd'hui.
Je ne suis pas à l'origine.
Parlez-nous de Conversation. Vous êtes très impliqué.
Oui, je suis très impliqué. Enfin, j'y travaille.
Voilà.
Pour être clair, donc The Conversation France est une antenne française d'un média mondial qui s'appelle The Conversation.
Qui est un site, au début australien.
Qui a débuté en Australie, qui est aujourd'hui prospère en Angleterre, aux États-Unis et en Afrique, alors en Afrique du Sud, hein, donc l'Afrique francophone. Et on vient de se lancer en France. C'est un projet qui est un projet à but non lucratif, donc on fait pas d'argent, il n'y a pas de publicité, on est parfaitement transparent et on a une spécificité, c'est que nous faisons écrire uniquement des gens de ce que les Anglais appellent le monde académique, c'est-à-dire les universitaires et les chercheurs.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention de journalistes
dans
l'écrit.
Alors, je vais en parler parce que je fais quand même quelque chose tous les jours. Je suis derrière avec mes autres confrères et consoeurs. On a une ligne éditoriale, on choisit de travailler avec un tel et une telle sur tel ou tel sujet. Mmh. On demande des papiers et puis après, on fait ce qu'on appelle un travail d'édition, c'est-à-dire nous sommes là des éditeurs. On prend le chercheur par la main. Le chercheur, c'est pas son boulot d'écrire. Moi, c'est le mien. Et on vulgarise, on explique, on lève les ambiguïtés et c'est lui qui signe à la fin, en français.
Un exemple de sujet sur le site en ce moment, Aline Richard ?
On va prendre un chercheur français, Hervé Doll, qui est astrophysicien, qui a fait une série sur un de ses sujets de recherche qui est les galaxies lointaines. La quête des galaxies lointaines, pourquoi c'est important, pourquoi il faut chercher les galaxies lointaines, voilà.
Et ça s'adresse à tous, comment ont réagi les chercheurs, la communauté scientifique française?
Eh bien, très bien, ouais. Très bien, on commence à être repéré sur les écrans radars des grandes universités. Tout est transparent, tout est sous Creative Commons, c'est-à-dire que chacun peut nous reprendre comme il veut.
Isabelle Vérasson, je vous vois très intéressée par rapport à cette initiative.
Oui, parce que on voit bien, d'abord, le terme conversation est intéressant, hein, ouais. Il a été pris par, probablement à partir de Gabriel Tarte, qui montre que finalement, l'importance des médias, c'est d'abord la conversation que les médias vont permettre d'animer.
Et pas uniquement ce flux descendant.
Exactement. Voilà. C'est le two-step flow. C'est-à-dire qu'il y a un arrêt il y a des étages dans la communication et le niveau de la conversation est essentiel. Mais ce qui me paraît important par rapport à ce que vous disiez sur les gens sont pas au courant, ils sont pas très calés. Ce que permet quand même les médias numériques, c'est la possibilité pour chacun de devenir un spécialiste. C'est-à-dire que il ne sera pas spécialiste de tout. Pour devenir un spécialiste, pour devenir un scientifique, il faut de longues études, il faut des aptitudes, il faut passer des concours, il faut être jugé par ses pairs, etc. En revanche, et ça on revient à ce qui se passait au 18e, au 19e siècle, la possibilité d'apprendre dans un domaine, sur un sujet, grâce à l'accès au numérique, c'est-à-dire que chacun peut lire...
C'est le phénomène des MOOC, Isabelle Vérasson, c'est ça? C'est les professeurs d'université, les universités qui créent des cours en ligne.
C'est à vous parler Creative Commons. Actuellement, les chercheurs sont confrontés à ça, c'est que leurs travaux vont être mis à disposition de tout le monde gratuitement, sans filtre, ce qui pose un problème, gratuitement, ce qui pose des problèmes financiers. Mais là, on est au cœur de nos affaires et chacun va pouvoir devenir, avec des inconvénients et des avantages, d'une certaine manière, un peu un spécialiste du sujet qui l'intéresse. Et là, on va être confronté à est-ce qu'on peut faire de la bonne science quand on apprend tout seul? Est-ce qu'on peut être suffisamment calé pour discuter avec des scientifiques, ça? Finalement, est-ce que les journalistes?
Sylvestre Huet. Il y a débat. Tous spécialistes, c'est pas gagné. Et puis, est-ce qu'on peut se passer des journalistes? Ça aussi, c'est une question.
Est-ce que les amateurs peuvent devenir des scientifiques?
Si quelqu'un qui n'est pas dans le système de recherche et universitaire se met à passer des centaines d'heures à potasser les résultats et les méthodes de la recherche dans un domaine et qu'il cherche à se transformer en spécialiste, ça va lui prendre toute la journée. Je veux dire par là que aujourd'hui, le développement de la science est tel que seule une activité professionnelle continue, ardue, peut permettre de participer à l'élaboration des connaissances elles-mêmes, et même simplement se tenir au courant de ce qui est fait dans le domaine qui vous intéresse, ça prend énormément de temps. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les scientifiques eux-mêmes sont très spécialisés et ignorent souvent ce qui fait dans le laboratoire d'à côté, et je parle même pas de la discipline d'à côté. Et donc, il faut pas se leurrer. Il y a un problème majeur de partage de la science. C'est un problème majeur à l'intérieur de la science, parce que bien souvent, c'est nécessaire de faire ce partage pour faire progresser les connaissances dans tel ou tel domaine, parce qu'il faut mettre ensemble des connaissances qui viennent de disciplines différentes ou de laboratoires différents. Mais c'est pas un problème majeur pour la société, parce qu'on utilise massivement la science dans la technologie pour transformer la nature, nos modes de production, nos modes de consommation. Et donc, du coup, on le voit bien avec la COP21 et le problème de l'énergie, on est obligé d'intégrer dans les débats politiques des morceaux du savoir scientifique, et la digestion par la société, entre guillemets, le partage par la société de ces éléments de connaissances qui sont indispensables pour opérer des choix démocratiques, c'est-à-dire en connaissance de cause, dans par exemple les domaines de l'énergie ou de la gestion des équilibres naturels, pose ce problème majeur. Comment partager ce que les scientifiques eux-mêmes n'arrivent pas à partager?
Mais c'est tout et votre donc, boulot, justement,
oui,
c'est ça?
Oui, bien sûr, mais on voit bien l'énormité du travail à faire. Et en face de ça, pour ce qui concerne la France, les quelques dizaines de journalistes scientifiques qui sont au boulot, le boulot est beaucoup trop monumental.
Pour, est-ce qu'il faut réinventer alors le journalisme scientifique? C'est une question pour Cyril.
Moi, j'ai l'impression même qui se transforme, en tout cas, il y a des, avec les nouveaux médias, il y a des possibilités d'échange et de dialogue direct entre à la fois le grand public, les chercheurs et les journalistes. Je pense à Twitter, mais je pense aussi à des forums de discussion. J'ai été témoin d'échanges sur un forum américain qui était ouvert au grand public comme aux chercheurs sur les premières images de Mars envoyées par le robot Curiosity de la NASA. La NASA a une politique d'image ouverte, donc toutes les images qui arrivent en direct du robot sont mises en ligne, elles sont accessibles à tous. Il y en a une telle quantité qu'une partie du premier traitement de ces images est fait par des amateurs, qui sont passionnés de Mars. Et donc j'ai vu des images qui sont des panoramas qui sont montés très rapidement par des amateurs, présentés sur le forum, avec le chercheur de la NASA qui dit « c'est extra, j'avais pas vu ça ». Avec une mise en relation directe, parce qu'on échange, on se tutoie, on est sur un forum. Et quelque part, on fait progresser quelque chose. Et je trouve, c'est un petit exemple, mais c'est quelque chose d'assez unique.
Donc c'est un travail à trois que vous nous décrivez, une conversation à trois, pour reprendre.
C'est ce que faisaient les chercheurs au 19e siècle, en demandant aux uns et aux autres qui avaient observé le déplacement des problèmes d'hygiène, de l'eau qui était polluée, les épidémies, faire des relevés, mais des observations et de donner à la communauté des éléments de connaissance. Oui. Donc finalement, cette idée qu'il faut être plusieurs pour faire de la science, et même éventuellement ne pas avoir de doctorat, n'est pas
alors,
tout à fait...
Alors, je ne faut pas être angéliste, c'est pour le moment
anecdotique. C'est une aide, là. Ouais.
C'est une aide, et c'est encore des tout petits points qui n'ont rien à voir avec la majeure partie de la production scientifique. On est sur
on
du
n'est pas chercheur, parce qu'on est observateur.
Il y a ce mouvement de science participative qui est quand même intéressant.
Merci à tous les quatre. On arrive au terme de cette émission. Aline Richard, journaliste à The Conversation.
Absolument.
L'adresse, c'est
.fr.
Vous avez en préparation, Aline Richard, un documentaire et un livre sur les OGM.
Sur les OGM et les manipulations génétiques.
À suivre donc d'ici quelques mois. Sylvestre Huet de Libération, merci d'être venu également. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les Dessous de la cacophonie climatique. C'est aux éditions La Ville Brûle. Cyril Vandenberg du Figaro, président de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information, à lire aujourd'hui dans les colonne du Figaro, entière.
Oui, on a préparé une page entière sur Hyperloop, projet de train du futur, avec plus de 1000 km/h dans des tubes à vide. C'est évidemment des Californiens qui rêvent de ça.
Merci aussi à Isabelle Vera-Masson. Avant de retrouver notre chronique sur l'actualité internationale et de partir en Corée, retrouver notre correspondant Frédéric Ogerdias, je vous propose de refermer notre dossier du jour avec le clin d'œil traditionnel dans cette émission. Il est signé aujourd'hui Nathalie Lopez.
Grâce à la technologie, la science est sur le point de découvrir ce qui s'est passé durant la seconde la plus importante de tous les temps.
France Info, édition spéciale.
On
on vient de l'apprendre, une grande découverte vient d'être faite par le corps scientifique après des années d'expérience menées au fond des plus grands laboratoires. On vient de découvrir ce qu'est un journaliste.
Le journaliste est un serviteur de l'information, il rend compte de la réalité et à ce titre, il se doit de travailler au plus près des faits, avec rigueur et respect des sources.
Ils ont également découvert qu'il existait trois types de journalistes.
Le journaliste de presse qu'on n'entend pas, le journaliste radio qu'on ne voit pas et le journaliste télé qu'on voit trop.
Fait très étrange, les chercheurs se sont rendus compte que leur devise était la même, le savoir-faire et le faire savoir. Ils en sont arrivés à cette conclusion, le chercheur est comme le journaliste.
Le journaliste c'est une relation humaine, c'est une forme d'humanisme.
Existe-t-il un lien plus fort entre les journalistes et les scientifiques ? Les recherches sont en cours.
Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime.
Je t'aime moi non plus, voilà peut-être qui résume finalement notre sujet du jour entre journaliste et scientifique. Je vous laisse juge. Nous partons à l'étranger maintenant, à Séoul, en Corée du Sud, où nous attend notre correspondant Frédéric Ojardias. Bonjour Frédéric.
Bonjour Benoît, bonjour à tous.
En Corée du Sud, tourne en boucle en cette fin de semaine sur les chaînes d'info continue des images déchirantes de familles coréennes temporairement réunies. Une centaine de familles qui ont été coupés en deux par la guerre de Corée depuis plus de 60 ans, comme des milliers d'autres, ont eu l'occasion inespérée de retrouver un frère, une sœur, pour quelques heures seulement, dans des conditions très strictes et sous l'œil des caméras. Ce type de rencontre est normalement organisé chaque année depuis un accord diplomatique passé en l'an 2000 entre les deux frères ennemis. Pour des raisons politiques, elles se sont raréfiées depuis quelques années. Celle qui vient de se terminer a été particulièrement poignante. Frédéric, comment cet événement a été couvert par les médias coréens et étrangers?
Eh bien, il suscite énormément d'attention déjà en Corée du Sud. Ces retrouvailles familiales ont lieu en territoire nord-coréen, dans un complexe hôtelier des Mongkeumgang, à quelques kilomètres au nord de la frontière. Et seul un nombre limité de journalistes sud-coréens, donc de presse et de télévision, sont autorisés à monter dans les bus avec les familles qui traversent la frontière. C'est un système de poules où les télés, qui ont le droit de s'y rendre, partagent ensuite leurs images avec les autres. Et les journalistes étrangers, eux, ne sont pas autorisés à aller au nord. Nous sommes obligés de travailler en amont, en rencontrant quelques jours avant les familles qui s'apprêtent à partir. Puis c'est aussi intéressant souvent de les revoir à leur retour. La Croix-Rouge sud-coréenne qui organise les réunions se montre très transparente et vraiment très coopérative avec les journalistes, y compris les étrangers. Et c'est aussi intéressant de noter que les médias officiels nord-coréens parlent eux aussi de ces retrouvailles. Alors c'est bien sûr une approche de propagande, hein. L'agence de presse officielle raconte ainsi comment les familles nord-coréennes expliquent à leurs proches du Sud combien ils vivent heureux sous le socialisme de Kim Jong-un. Les journaux nord-coréens se gardent bien évidemment de parler de tous les problèmes que posent ces rencontres.
Ouais, justement, on sait que le régime de Pyongyang maîtrise parfaitement l'art de la mise en scène, de l'orchestration. Tout ça est réellement mis en scène pour les médias, Frédéric.
Oui, alors c'est très mis en scène, hein. C'est toujours le même scénario, les 100 familles, donc environ 500 personnes, sont installées autour de tables rondes dans une immense salle d'un hôtel, et autour d'eux il y a vraiment des nuées de caméras, ils n'ont absolument aucune intimité, c'est terrible, on assiste directement à la rencontre de ces Coréens, souvent très âgés, qui ont attendu 65 ans pour se revoir, et pour ces retrouvailles qu'ils ont attendues toute leur vie, ils ont littéralement des caméras sous le nez, c'est une approche très voyeuriste, ce sont des images souvent beaucoup, beaucoup trop intimes, et des images qui vont ensuite tourner en boucle sur les télévisions sud-coréennes. Et elles suscitent évidemment beaucoup d'émotion et d'intérêt parce que ces familles incarnent vraiment toute la tragédie de la division coréenne.
Frédéric, au-delà de ces images tournées par les médias sud-coréens, comment est-ce que les journalistes couvrent ce type d'événement ?
Ben en fait, je trouve que les médias sud-coréens et parfois aussi internationaux insistent finalement assez peu sur la violence et la cruauté de ces retrouvailles. En fait, elles sont ultra chronométrées, elles sont très surveillées, elles ne sont suivies d'aucun contact. Imaginez, 65 ans d'attente, 12 heures de rencontre et puis ensuite aucun échange de lettres ou de téléphone, c'est fini, plus aucun contact. Donc c'est un traumatisme immense pour ces familles, dont certaines d'ailleurs déclarent après avoir regretté et avoir participé. Et très peu de médias sud-coréens parlent de ça. de ces Sud-Coréens qui racontent le lavage de cerveau de leurs proches du Nord, de la souffrance de ne pas pouvoir poser toutes les questions qu'ils voudraient, notamment des questions sur la vie quotidienne. C'est un peu comme si les médias locaux voulaient absolument coller à un beau récit, celui des émouvantes retrouvailles intercoréennes, de ce léger rapprochement entre Nord et Sud. Et même si certaines familles se montrent un peu plus positives, hein, bien sûr, à la sortie des rencontres, je trouve que les médias en ont une vision un peu trop angélique. Parce que ce à quoi on a assisté en direct ces derniers jours, ce sont des violations absolument terribles des droits de ces familles à rester en contact.
C'est seulement la deuxième rencontre de ce type en 5 ans, hein, Frédéric. Le Nord bloque ou en tout cas freine l'organisation de ce type d'événement. Quel est l'intérêt pour la Corée du Sud d'accepter les conditions de Pyongyang sur un sujet aussi important ?
Oui Benoît, en fait la Corée du Sud n'a pas le choix. Il y a 66 000 Sud-Coréens très âgés qui sont toujours sur liste d'attente pour participer à ces rencontres. Le temps presse et ces conditions très controversées de retrouvailles ont été négociées. Elles sont le fruit de très longues discussions entre Nord et Sud. Et malgré tous les problèmes qu'elles posent, eh bien la Corée du Sud souhaite en organiser beaucoup plus régulièrement. Et c'est le régime nord-coréen qui refuse. Il n'accepte que des réunions au compte-gouttes et puis il s'en sert comme d'une monnaie d'échange diplomatique hein, pour essayer parfois d'en tirer quelques concessions, notamment économiques. La Corée du Sud, elle souhaite ces retrouvailles. Elle est donc obligée d'accepter les conditions imposées par Pyongyang.
Merci Frédéric Ojardias au téléphone avec nous depuis Séoul en Corée du Sud. C'est ainsi que se termine Le Secret des Sources. Merci d'avoir suivi cette émission réalisée par Vincent Abouchard, préparation Mathias Mégy. Merci à Nathalie Lopez pour son clin d'œil. À la technique aujourd'hui, c'était Clément Daté. Dans un instant, sur France Culture, le journal d'Élodie Forêt, puis réplique d'Alain Finkielkraut. Très bonne journée.
L'un des rôles principaux des journalistes scientifiques, c'est justement d'identifier à l'intérieur de la communauté scientifique, quels sont les chercheurs qui sont capables de porter non seulement les résultats de leurs propres travaux, mais aussi les résultats des travaux des autres chercheurs.
D'un côté, il y a des rédacteurs chefs qui vous disent « Qui c'est celui-là ? Tu peux pas me trouver du Yves Coppens à la place ?» Vous voyez ce que je veux dire pour avoir
le
un
bon
peu
client,
de le bon client. Bon.
Quand on voit un spécialiste des trous noirs parler de la surface de Mars, eh ben on n'y est pas. Il a beau être astrophysicien, c'est un domaine qu'il ne connaît pas, enfin pas plus qu'un autre d'ailleurs.